Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous célébrons ta grandeur et magnifions ta sainteté. Tu nous appelles, Seigneur, à écouter ta parole parce qu'elle est la source de la vie. En dehors d'elle, Père éternel, il n'y a point de vie. Que tout en nous, Seigneur, fasse silence et que, Seigneur, ta voix seule se fasse entendre maintenant. Dispose, Père éternel, nos cœurs à recevoir la vie que tu as nous communiquée, à recevoir les instructions que tu as pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de nous parler au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 10, versets 1 à 20. Je lis dans la version 8 secondes. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Et s'il se trouve là, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entrez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville où vous entrez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attaché à nos pieds, sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'aux cieux, jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Peuple de Dieu, rassemblé ici ce matin pour communier avec le Père, avant de quitter son ministère terrestre, Jésus a confié une mission à ses disciples, celle de faire de toutes les nations ses disciples à lui Jésus. Et ceci au travers la prédication de l'Évangile. Mais avant d'arriver à cet ordre suprême que Jésus a donné à ses disciples, il a commencé à les utiliser sur le champ de mission, pour qu'au moment où l'instruction sera donnée, qu'ils sachent exactement de quoi est-ce qu'il est question. Lui-même Jésus, il a montré l'exemple en prêchant l'Évangile, en guérissant les malades le long des rues, dans les villes et les villages. Il gagnait des âmes, il sauvait les personnes qui étaient perdues. Et dans le chapitre 9 de Luc, il envoie d'abord les 12 pour annoncer l'Évangile 2 à 2. Et dans notre texte de ce jour, ce sont les 70 que Jésus envoie. Mais avant d'envoyer les 70, il prend la peine de leur donner les instructions sur ce que lui il attend, qu'il adopte comme attitude pendant qu'ils sont sur le champ de mission. Et je crois que cette attitude que Jésus prescrit à ses disciples, il nous le prescrit aussi aujourd'hui à nous qui sommes appelés à être dans le champ de mission. L'Église doit être en mission, et une Église qui cesse d'être en mission est une Église démissionnaire. Et l'Éternel voudrait véritablement que nous rentrons dans notre mission première, qui est celle du salut des perdus, du salut des âmes. La première instruction
que Jésus donne à ses disciples. Allez, deux à deux. Deux à deux. Dans la loi juive, le témoignage d'une seule personne n'avait pas de valeur. Mais le témoignage de deux personnes était efficace. C'est pourquoi Jésus peut les mettre ensemble, deux à deux, pour aller annoncer l'évangile. Et nous comprenons également pourquoi est-ce que l'Ecclésiaste pouvait dire « deux valent mieux » parce que dans le champ de mission, si l'un tombe, qu'est-ce qui se passe? L'autre le relève. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 13, verset 1, « Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Ce n'était pas au hasard que Jésus les envoyait deux à deux. C'était pour se soutenir mutuellement et être efficace dans le travail qu'ils ont à faire. Ceci nous donne également de voir que nous ne sommes pas appelés seuls dans le champ de mission, mais nous sommes appelés avec quelqu'un. Nous sommes appelés à œuvrer avec quelqu'un. Deuxième chose, priez pour que Dieu augmente les ouvriers. En d'autres termes, priez pour que le Seigneur dispose les cœurs à recevoir l'évangile et deviennent à leur tour des ouvriers dans le champ de mission. Il ressort ici très clairement le principe du discipolat de Jésus. Il a fait la mission pour montrer l'exemple. Il envoie ses disciples pour s'exercer, mais dans le but clair de gagner des personnes qui deviendront à leur tour également des missionnaires dans le champ de mission et non des spectateurs dans la maison de Dieu. Et 2 Timothée 2, verset 2, nous dira « Ce que tu as entendu de moi, transmets-le à des hommes fidèles, qui soient capables eux aussi de transmettre à d'autres. » C'est comme ça que l'œuvre de Dieu doit se transmettre. Et si on n'est pas dans cette logique, on passe à côté de notre mission. On doit pouvoir équiper les personnes pour qu'à la fin de leur équipement, ils soient en mesure de gagner d'autres personnes au Seigneur. Ce n'est qu'ainsi que l'œuvre de Dieu va se perpétuer de génération en génération. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont gardé la flamme et qui ont su passer le témoin. Nous devons également passer le témoin aux autres. Le besoin en ouvrier est toujours plus grand que l'effectif déjà au travail. Dans le monde, il est dénombré environ 2 milliards de chrétiens sur les 7 milliards de la population mondiale. Et nous comprenons qu'environ 5 milliards sont encore sans Christ, qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Et qui va leur porter l'évangile si ce n'est des personnes qui s'engagent véritablement à être ces témoins efficaces de Dieu auprès de ces perdus? Malgré la technologie, le progrès technologique, nous avons encore besoin aujourd'hui des ouvriers dans la maison de Dieu. Est-ce que tu vas répondre à l'invitation du Seigneur à devenir ouvrier dans sa maison? Ou alors est-ce que tu vas demeurer spectateur dans la maison de Dieu? La troisième des choses, les disciples sont envoyés dans un environnement hostile. Et Jésus les prévient, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le monde n'acceptera pas toujours notre évangile. Nous serons persécutés, rejetés, même par les membres de notre famille, à cause de notre foi en Jésus. L'histoire nous révèle qu'un bon nombre de chrétiens sont morts martyrs à cause de leur foi. Certains ont dû être brûlés vifs parce qu'ils ont confessé leur foi en Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, en Chine, le régime impérial a interdit le christianisme. Et toute personne qui était surpris en possession d'une Bible était non seulement torturée, mais jetée en prison. Les gens ne vont pas accepter l'évangile. Mais est-ce parce que les gens ne vont pas accepter, a priori, l'évangile que nous devons abandonner la mission que le Seigneur nous a confiée? Certainement non. Nous sommes appelés à persévérer, à aller jusqu'au bout. Et Jésus pouvait dire, s'il en a été ainsi du bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Parlant des difficultés par lesquelles est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous allons passer à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle du salut. Mais il est important de relever une chose, c'est que cet acharnement contre les chrétiens démontre tout simplement qu'ils sont dans la vérité. De toutes les religions qui existent dans le monde, religion entre guillemets, parce que le christianisme en fait n'est pas une religion, de toutes les religions, le christianisme est celle qui est la plus persécutée. Et cela démontre que nous sommes dans la vérité. Dis à ton voisin, tu es dans la vérité. Jésus, dans la suite, interdit à ses disciples toute recherche du confort personnel. Et il va dire, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Autrement dit, ne faites pas de réserve. Est-ce que Jésus voulait par là misérer ses disciples? Non. Il sait que dans le champ de la moisson, il y a la provision. Pendant qu'on est dans le champ de moisson, lui, il se charge de pourvoir pour que nous ne manquions de rien dans le ministère qu'il nous a confié. C'est une manière de leur dire que pendant que vous travaillez pour le royaume de Dieu, le Seigneur prend soin de vos besoins. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui mettent en avant leur confort matériel au détriment des âmes qu'il faut sauver. Et c'est pourquoi il y a plus de chasseurs de sous que de gagneurs d'âmes, même dans l'Église. Même pour les choses que nous devons faire par devoir, parce que cela relève notre responsabilité, on est parfois exigeant que tant qu'on ne nous a pas donné telle chose, on ne fait pas. Et j'ai vécu la vraie sorcellerie, j'en parlais encore au premier culte, à un enterrement d'un de nos fidèles. Je devais aller au village, au nom de toute la communauté. Le culte qui était prévu à 9h, surtout de 11h30 qu'on commence le culte. Dans l'inquiétude, on se demande, mais pourquoi est-ce que les choses traînent tant? Et on nous fait savoir qu'en réalité, le chef de terre a dit que tant qu'il n'y a pas son enveloppe, il n'y a pas d'office. C'est malheureusement la réalité. Les gens sont dans le deuil, ils sont accablés, mais on exige forcément qu'il y ait l'enveloppe pour prêcher l'évangile. Nous sommes au service de qui? Est-ce que nous sommes à notre service ou alors au service de Dieu? Et c'est vrai aussi dans nos différents lieux de service. Ce que les gens devraient faire naturellement et normalement, parce que ça relève de leur fonction, il faut monnayer pour que le service soit rendu. Dieu veut que nous soyons ses témoins. Toujours parlant du confort, pendant que nous étions responsables de l'évangélisation dans la région de la Menoye, nous avions l'habitude d'organiser des camps d'évangélisation pendant une semaine dans le lieu où le synode régional devait avoir lieu. Et un jour, on allait dans une localité. Habituellement, on dormait dans le temple pour ceux qui devaient camper et certaines personnes dans le presbytère. Le temple n'était pas achevé et il était donc impossible de dormir. On réfléchissait sur le lieu où on devait dormir. Il y avait des maisons des élites qui se disaient chrétiennes, qu'on a pu mettre à notre disposition. Il y avait une grande maison, très jolie, carrelée, qui avait un bon nombre de chambres. Et à côté, il y avait une autre maison. On a commencé à se disputer et puis les gens disaient, non, il faut qu'on aille dans la maison carrelée, il ne faut pas aller dans l'autre maison parce que ce n'est pas confortable. Mais je vous assure, on est allé là où c'était confortable. Mais on a eu des difficultés à rendre ministère. Pourquoi? Parce que dans l'une des pièces dans cette maison, il y avait les crânes. C'est récurrent. On voit dans des maisons des gens, un angle de la maison, on a lissé le sol partout. Mais un angle, on a installé les crânes. Et on était dans un lieu où il y avait une bataille. Parce que l'hôtel que nous avions installé dans ce lieu était en conflit avec l'autre hôtel des crânes qui était bâti dans ce lieu. quand vous cherchez premièrement votre confort, vous risquez de passer à côté de l'œuvre que Dieu veut vous confier. Laissez que Dieu lui-même prenne soin de vous et pourvoie vos besoins pendant que vous êtes en train de rendre ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre cet enseignement de Jésus, d'apprendre à dépendre de lui et de lui seul. Et souvenez-vous que si vous recevez votre récompense des hommes, n'attendez plus la récompense qui vient d'en haut. Et je peux vous garantir une chose, la récompense qui vient des hommes n'est rien à comparer à celle que le Seigneur peut vous donner. La cinquième chose, rachetez le temps. Jésus interdit aux missionnaires de saluer les personnes sur le chemin. En réalité, la salutation dans la tradition juive, comme dans certains de nos villages, prenait environ 2 ou 5 minutes, n'est-ce pas? Parce qu'on devait saluer le père, on devait saluer la grand-mère, on devait saluer toutes les autres personnes. Et ceci prend suffisamment de temps. Jésus l'a dit, vous n'avez pas besoin de saluer les gens. Vous allez gaspiller le temps. Mais il faut racheter ce temps. Parce que le temps est court. Mais la mission que nous avons accomplie est grande. Il faut racheter le temps. Tout en étant courtois et sociable, ils doivent consacrer leur temps à la proclamation de l'Évangile. Et non dans des bavardages qui ne sauvent personne. Il n'y a pas de temps pour les choses inutiles. Une seule parole est donnée aux disciples pour la salutation. Que la paix soit sur cette maison. Quand vous entrez dans une maison, tout ce que vous avez à dire, ça coupe tout. Ça coupe court, n'est-ce pas? Les salutations de toutes les autres personnes là. Que la paix soit dans cette maison, c'est suffisant. Et passez ensuite à l'essentiel. Acceptez l'hospitalité qui leur est offerte. Et pour savoir si on a été accueilli dans une maison, il fallait souhaiter la paix à toute la maisonnée. Et s'il y a dans cette maison un enfant de paix, il vous reçoit et vous séjournez dans ce lieu. Sinon, votre paix retourne à vous et vous repartez pour continuer la mission ailleurs. Et là où vous serez reçu, restez dans cette maison. Mangez. Et buvez ce que l'on va vous proposer pour refaire vos forces physiques. Il n'est pas question d'aller de maison en maison ou alors d'embarrasser, de mettre en difficulté ses hôtes. Il arrive que les gens exercent l'hospitalité à notre endroit à cause de la mission qui nous conduit, mais que nous embarrassions à cause de nos exigences, à cause de ce que nous demandons d'eux. Il n'est pas question de les embarrasser, mais d'accepter ce qu'ils nous proposent, ce qu'ils nous donnent. Guérissez les malades, c'est un ordre que Jésus donne, parce que le témoignage de la parole doit être accompagné d'une démonstration de puissance. Si vous avez fini de parler de quelqu'un, de l'évangile à quelqu'un, et qu'il reste dans son fauteuil de maladie, comment est-ce que lui, à son tour, va être en mesure de transmettre ce message? Il faut qu'il se relève, qu'il reçoive la guérison, qu'il se lève de cet handicap qui l'empêche de porter l'évangile. C'est pour cela que la parole de Dieu s'accompagne toujours des signes et des miracles pour attester l'évangile qu'on a prêché, pour montrer que le Dieu dont nous sommes en train de parler n'est pas une histoire qu'on invente, mais il agit d'une manière concrète. Il dit dans les maisons où vous serez reçus, priez s'il y en a des malades, priez pour eux, pour qu'ils reçoivent la guérison. Autrement dit, brisez tout obstacle qui peut les empêcher de servir efficacement le Seigneur. Je me souviens, nous sommes arrivés dans une concession, toujours pendant l'évangélisation. Après avoir prêché, les personnes de la concession ont demandé une prière. Parce qu'il y avait une succession de morts bizarres au sein de cette famille. Et pendant que nous arrivions, ils venaient d'enterrer l'un des enfants sur qui est-ce que toute la famille comptait. Et désemparés, ils ont demandé la prière des évangélisateurs qui étaient dans cette concession. Dès que ceux-ci ont commencé à prier, les manifestations qu'il y a eu là-bas, c'était terrible. Parce que ces gens étaient enchaînés, ils étaient prisonniers. ils ont besoin, eux, d'être libérés pour à leur tour porter l'évangile de Jésus aux autres personnes. Et le témoignage de leur libération a permis qu'eux-mêmes, dans les jours qui suivaient, disent non, avec ce qu'on a vu chez nous, on va vous accompagner dans les prochaines maisons d'évangélisation. L'évangile, c'est aussi la démonstration de la puissance, pas la guérison. Et Jésus nous donne cet ordre-là. Il ne donne pas cet ordre sans nous donner le pouvoir de le faire. C'est pour cela qu'au verset 19, il va dire, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et j'aime bien la suite. « Et rien ne pourra vous nuire. » C'est une assurance formidable que le Seigneur nous donne pendant que nous allons en mission. Nous avons l'assurance de la victoire sur toutes les forces des ténèbres qui peuvent se dresser sur notre chemin. La lumière que nous apportons dissipe les ténèbres. Dieu veut donc les personnes qui s'engagent véritablement à cette mission-là. Pendant que Jésus proclame ses paroles, ses instructions, il se souvient de trois villes de Galilée qui avaient été beaucoup plus privilégiées que les autres. Elles avaient pu voir les prodiges qu'il avait accomplis dans les rues. Elles avaient entendu son message de grâce, mais elle l'avait rejeté. Si les miracles opérés à Chorazin et à Bethsaïda l'avaient été à Tyr et à Sidon, Tyr et Sidon se seraient répentis et leur vie aurait changé. Ces versets m'ont fait réfléchir un peu sur la situation de notre communauté. Le Seigneur fait des choses extraordinaires au milieu de nous, n'est-ce pas? Mais je crains et j'ai peur, et quand je pense à ça, j'ai mal au cœur, que des gens qui ont vécu dans la communauté de Tamja depuis des années se retrouvent en enfer. Avec tout ce que le Seigneur opère comme prodige dans notre communauté. Ailleurs, les gens ont soif d'avoir la ressource que vous avez ici à Tamja. Ailleurs, les gens ont soif des personnes qui vont les aider à grandir dans la foi. Mais ils n'en trouvent pas. Mais ici, on a cette opportunité, mais on ne saisit pas l'occasion. J'ai travaillé dans une communauté où je ne pouvais pas aller en congé. J'allais en congé lundi, je revenais vendredi. Si vous n'êtes pas là le dimanche, quand vous allez revenir, vous allez chercher les chrétiens au quartier. Ce sera un perpétuel recommencement. Il n'y avait personne qui pouvait me seconder dans la tâche. Ça a pris le temps que ça a pris pour bâtir quelques personnes, équiper quelques personnes qui pouvaient prêcher et enseigner par la suite. Mais nous avons la grâce ici d'avoir toute la ressource. Et le Seigneur opère des choses extraordinaires dans cette communauté. Si nous refusons et endurcissons notre cœur, nous refusons d'accepter le salut que le Seigneur nous offre gracieusement, il est probable que nous soyons frappés durement, comme Chorazin et Bethsaïda. Bien-aimés dans le Seigneur, la destruction de ces deux villes fut tellement grande qu'aujourd'hui même, on a de la peine à repérer là où ces villes se trouvaient. Ça veut dire que sa ruine était terrible. Mais Dieu ne veut pas que ce soit le cas pour nous. C'est pourquoi il nous donne l'occasion de répondre à son invitation et d'entrer dans la mission qu'il nous a confiée à nous tous, ici présents. Jésus conclut ses instructions au 70 en confirmant leur rôle d'ambassadeur. Les rejeter, c'est rejeter Jésus. Et rejeter Jésus, c'est rejeter le Père qui l'a envoyé. Cela voudrait simplement dire que si nous refusons le message de l'évangile de Dieu, en réalité nous sommes en train de refuser Dieu. Nous lui avons fermé la porte de notre cœur. Et malgré l'insistance, malgré le fait que Jésus soit en train de frapper, si notre cœur demeure endurci, nous ne connaîtrons pas la joie de passer l'éternité dans sa présence. De retour de la mission, les disciples sont dans la joie. Ils sont partis sans rien, mais ils reviennent contents. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans la joie? Parce que la moisson a été abondante. Beaucoup de personnes se sont converties. Ils ont vu la main de Dieu agir dans les vies des personnes. Les malades se relever. Les personnes être délivrées. Et ils étaient dans la joie de voir ces prodiges. Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pendant que nous sommes en train de rendre témoignage, Satan chute de sa position et il perd le contrôle sur les vies des gens. Pendant que nous sommes en train de rendre ministère, nous détruisons ses œuvres dans les vies des gens et la lumière de Christ s'installe dans leur vie. Cette déclaration de Jésus peut être interprétée comme étant une prophétie sur la chute de Satan, chassée par Michaël, annoncée dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, pendant la tribulation, ou encore comme étant une mise en garde contre l'orgueil. L'orgueil, parce que ce n'est pas avec nos forces que nous faisons l'œuvre de Dieu, mais c'est avec la force que le Seigneur nous communique. Et après toute chose, c'est à lui que revient la gloire. C'est à lui que revient l'honneur, parce que c'est lui qui nous a enroulés dans ce champ de mission. Lui, bien-aimé, Dieu veut des ouvriers dans son champ de mission. Est-ce que tu veux répondre à son invitation? Dieu veut des ouvriers et non des spectateurs. Des vases qui sont seulement là pour être remplis. On remplit, mais jamais on ne donne aux autres. Dieu veut des ouvriers. Ça me dérange souvent beaucoup quand pendant les sorties d'évangélisation, c'est avec beaucoup de peine que les groupes vont le faire. C'est peut-être parce que nous n'avons pas compris la profondeur de la mission que le Seigneur nous a confiée. Tout à l'heure, ce sera le grand groupe qui va sortir pour l'évangélisation. Mon désir, c'est qu'un grand nombre parmi vous prenne des traités et aux sorties, sur le chemin de retour à la maison, que vous prêchiez l'évangile à au moins deux personnes. Vous leur parliez de l'amour de Jésus. C'est notre mission. Personne d'autre ne peut accomplir cette mission que nous. Que vivement le Seigneur nous aide et qu'il nous équipe davantage pour cette mission qu'il nous a confiée. Qu'il bénisse dans nos cœurs l'écoute de sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Est-ce que tu es un ouvrier dans la maison de l'Éternel ou alors un spectateur? Est-ce que dans ton cœur brûle la flamme pour les perdus, pour ceux qui sont encore dans les ténèbres? Demande au Seigneur de t'embraser, de mettre dans ton cœur le fardeau de la grande commission qu'il nous a confiée à chacun d'entre nous. Dis-lui, Seigneur, désormais, je veux vivre pour gagner des âmes. Partout où tu m'appelles à être, que ce soit dans mon lieu de service, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans la société, dans les rues, Seigneur, donne-moi d'être un gagneur d'âmes. Que cela devienne la priorité de ma vie. Dis merci au Seigneur pour sa puissance qu'il a mis à ta disposition pour que tu accomplisses pleinement cette mission. Il a dit qu'il est avec nous pendant que nous accomplissions cette mission jusqu'à la fin du monde. Bénis le Seigneur pour sa présence à tes côtés. Dis-lui merci pour son Saint-Esprit qui désormais t'oriente et t'aide à être efficace dans la mission. Père, infiniment merci parce que tu nous appelles à être des ouvriers dans ta maison. Notre désir, Seigneur, c'est que tes enfants ici présents qui ont écouté ta parole deviennent véritablement des personnes qui participent activement à l'expansion de ton royaume sur la terre. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous ne devons plus être indifférents à côté des personnes, Seigneur, qui meurent sans toi. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, un cœur qui les aime et crée dans nos cœurs, Père éternel, la soif de gagner un grand nombre. Fais en sorte, Père éternel, que cela devienne la priorité de notre vie dans tout ce que nous avons à faire. Merci pour ton Saint-Esprit qui est disponible. Merci pour ta puissance qui nous accompagne.
Merci pour ta présence qui ne faillit jamais. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen.